Parole de lecteur. Parole de lecteur. Une émission de Monique Fauché.
La pandémie que nous vivons actuellement évoque des romans traitant d'épidémies ayant affecté bien des pays. La peste de Camus, évidemment, ou le hussard sur le toit de Giono, par exemple. Mais le confinement de la population consécutif à cette pandémie a marqué bien des esprits. Nous avons été confinés. Comme les religieux d'ordre cloîtré, comme les ermites qui vivent dans différents pays, les trappeurs en Alaska ou les prisonniers tout simplement. L'écrivain italien Dino Buzzati, dans le désert du Tartare, a évoqué un confinement autre, c'est-à-dire choisi, voulu, non plus dans une totale solitude, mais dans un lieu dont on ne veut plus sortir. Un confinement psychologique, un repli sur soi, une espérance d'un événement qui serait le point d'orgue d'une destinée, ou un confinement contemplatif. Merci à Anna Servergne de nous offrir, grâce à ce roman, un temps de réflexion et l'idée de lire ou de relire ce livre remarquable, « Le désert des Tartares » de Dino Buzzati. Merci Anne La Servergne et bonjour.
Bonjour Monique.
Voilà, alors, oui c'est vrai, moi je l'ai lu à l'âge de 18 ans, vous voyez, ça fait quand même quelques années, et ça a été un bonheur et une redécouverte. Donc à nos auditeurs, on peut dire que quand les livres sont bons, il ne faut pas hésiter à les relire, même longtemps après, surtout longtemps après. Alors qui est Dino Buzzati, Anne?
Alors Monique, Dino Buzzati est un Italien puisqu'il est né en 1906 en Vénétie, il meurt en 1972, il a fait des études de droit à Milan et il est devenu journaliste, reporter et même correspondant spécial pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ce qui l'a marqué d'ailleurs.
Ce qui l'a marqué, on le retrouve dans ses écrits.
Oui, absolument.
Et il a également été essayiste, critique d'art, éditeur. Il a donc plein de cordes à son arc. Il ne ressemble pas du tout d'ailleurs à son héros, comme on va le voir.
J'ai appris qu'il était dessinateur même.
Ah, ça je ne savais pas.
Ben oui, moi, moi non plus. J'ai appris ça tout à fait par hasard.
Oui. Et donc il a écrit des pièces de théâtre, des nouvelles, dont le fameux K qui est devenu un grand classique,
ce recueil de nouvelles.
Des romans comme Barnabé des montagnes, L'image de Pierre ou Un amour, ou encore Le désert des Tartares dont nous allons parler. Mais ce que je voulais dire aussi et que j'ai découvert, c'est que même s'il se disait non-croyant, il était fasciné par l'au-delà et il a écrit une phrase en quelque sorte qui résume toutes ses interrogations. « Dieu qui n'existe pas, je t'implore. » J'ai trouvé cette phrase très belle.
Et quand il dit « je t'implore », moi j'ai découvert que c'était... Il dit à un moment donné « une certaine angoisse m'accompagne toujours, je n'ai jamais été libre. » Et en fait, il avait un côté dépressif aussi. Actif, mais dépressif.
Ah, ce qu'on va pouvoir peut-être retrouver dans son héros.
Absolument, absolument. Voilà, alors ce roman, grosso modo, de quoi parle-t-il ?
Alors, grosso modo, ce roman commence un petit peu comme une fable. Et pour moi, il en a la portée. Oui. Puisque la première phrase, et ce fut un matin de septembre, que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitte la ville pour se rendre au fort Bastiani en première affectation.
Le plus important, il dit.
Voilà. Et Drogo est ravi parce qu'il a toujours pensé que le jour où il deviendrait officier et où il recevrait sa première affectation, commencerait sa vraie vie. Donc, il part à cheval. Il a 2 jours de chevauchée pour se rendre à ce fort Bastiani que personne ne connaît. Quand il demande son chemin, personne ne peut le renseigner.
Oui. Alors, Drogo, comment est-il ? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce que sait-on de lui ?
Alors, on ne sait pas grand-chose de lui. Bon, à part le fait que quand il quitte la ville où il a grandi, où il a fait ses études, où il est devenu officier, il quitte sa mère,
Bon. Fils unique, apparemment.
Oui.
Et le père, on ne parle pas du père.
On ne parle pas
alors
du père.
Alors je me suis dit, ah, vous allez rire, je me suis dit, oh là là, un fils avec une mère italienne. On sait.
Oui, et on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de familles aussi autour, oui, de cousins ou d'oncles, de tantes.
Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il était très affectif finalement? Regardez quand il quitte son ami. Il a un seul ami, apparemment.
Oui. Non, et puis d'ailleurs, quand il va revenir en ville lors de sa première permission, au bout de 4 ans, ses amis lui sont devenus étrangers, et même Maria qu'il aimait, Maria qu'il semble aimer encore, non, il la voit et il n'a même plus envie de rester en ville.
Oui. Oui, oui, et c'est étonnant, ce désert affectif, c'est le désert des Tartares. D'accord.
Oui, tout à fait.
Alors,
vous voulez que je poursuive le résumé ou...
Volontiers, parce que, oui, à un moment donné, vous dites quelque chose qui m'intéresse. Oui. J'avais noté, il voyait un sourire forcé sur le visage qu'il avait en vain cherché à aimer.
Oui, à propos de Maria.
Oui, c'est ça.
Oui.
Oui. Bon, il est un peu sur le plan sentiment, un peu handicapé, hein.
C'est possible. C'est possible. On le voit dans le fort, effectivement. On a l'impression qu'il n'y a pas d'amis, qu'il ne peut pas réellement échanger avec quelqu'un.
Absolument. Absolument.
Et que personne n'échange avec lui.
Oui. Alors, revenons au résumé. Là, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Et donc, à peine arrivé au fort, il n'a qu'une envie, c'est de repartir. Parce qu'on lui explique que c'est une frontière morte, donc l'ennemi ne peut pas arriver par ce fort.
Alors, il me semble que vous aviez choisi une lecture par rapport à ce désir à peine arrivé de repartir. Bon, il faut reconnaître. Alors, on peut dire quand même un mot de son voyage et de la vision du fort.
Oui.
C'est pas Palm Beach.
Non, alors c'est de sombres murailles encadrées de montagnes, un fort lugubre.
Très minéral, tout est très minéral.
Oui. Et oui, d'autant plus que derrière le fort s'ouvre ce fameux désert des Tartares.
On en parlera parce qu'effectivement, oui, et cette vision du fort qu'il entreaperçoit à un moment donné dans une faille de la montagne, c'est vrai, c'est fantastique.
Oui, il y a quelque chose effectivement de fantastique, cette bâtisse perdue au milieu de nulle part, qui n'est pas entretenue, et avec des centaines d'hommes enfermés.
Oui. Exactement, enfermé. Et quant au voyage, ça n'a pas été une partie de plaisir. Alors apparemment, il ne connaissait même pas le temps qu'il allait mettre.
Non.
La nuit tombe,
il
pensait être arrivé beaucoup plus tôt. Tout ça, il est pénible ce voyage.
Ouais.
Vraiment, moi je vous ai dit hors antenne, j'ai dit c'est son chemin de croix. Mais effectivement, dans un premier temps, il va souffrir quand même.
Oui, vous avez raison Monique, parce que c'est 2 jours de cheval, solitaire, et il a l'impression à un moment d'être perdu, parce qu'il n'arrive jamais à ce fort.
Oui, et on le sent très anxieux.
Oui.
D'accord. Alors,
donc, il arrive à peine arrivé au fort, il n'a qu'un désir, c'est d'en repartir.
Donc, là, c'est là où vous avez trouvé un petit passage. Je crois que c'est à la page 38, m'avez-vous dit.
Voilà. Vous voulez que je le lise?
Oui, volontiers.
La porte se referma. Oui, Drogo, donc, est dans sa chambre.
Oui.
La porte se referma. Les pas s'éloignèrent, le silence s'établit de nouveau. Les étoiles brillèrent dans l'encadrement de la fenêtre. Giovanni maintenant pensait aux factionnaires qui, à quelques mètres de lui, marchaient de long en large, tels des automates, sans s'arrêter jamais pour reprendre haleine. Ils étaient des dizaines et des dizaines à être éveillés, ces hommes, tandis que lui était étendu sur son lit, tandis que tous semblaient plonger dans le sommeil. Des dizaines et des dizaines, se disait Drogo, mais pour qui, pourquoi? Dans ce fort, le formalisme militaire semblait avoir créé un chef-d'œuvre insensé, des centaines d'hommes pour garder un col par lequel ne passerait personne. S'en aller au plus vite, se disait Giovanni, sortir de cette atmosphère, de ce brumeux mystère.
Alors, c'est ce qui est amusant, enfin, on se pose des questions, c'est que même on s'est demandé s'il avait vraiment envie de partir ou pas.
Oui, et on peut se poser la question tout au long.
Oui. Parce Absolument. Que,
à peine arrivé donc, il veut repartir. On lui dit d'attendre 4 mois. Et au bout de 4 mois, il va voir le médecin, justement, pour avoir un certificat médical et demander sa nouvelle affectation, une mutation.
Oui, alors qu'il a tout fait, il a tout misé sur ce départ.
Oui.
Et en fait, il est toujours dans l'interrogation. En fait, il n'est jamais bien où il est.
Oui, c'est vrai, peut-être, Monique, oui. En tout cas, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'à partir du moment où il a le certificat médical du médecin dans la main, la nuit tombe sur le fort et il dit qu'il veut rester.
Alors, ce fort, on a dit qu'il était vraiment impressionnant, immense. Il est un endroit stratégique. Dit-on, mais l'est-il ?
Oui, il est donc près de cette frontière morte.
Oui.
C'est-à-dire une frontière par laquelle, normalement, l'ennemi n'arrivera jamais.
Et jusqu'à présent, ce fort n'a jamais servi à quoi que ce soit.
Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Le jour même où il arrive au fort, le capitaine Ortiz le lui dit que ce fort ne sert à rien.
Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'en fait... Il a ce lieu qui est minéral, dépouillé, est déjà une forme de prison. On parlait de confinement hein, oui. Que nous vivons en ce moment, mais tout est prison. Il y a le fort, mais même les montagnes autour.
Oui, j'ai bien aimé votre introduction, Monique, parce que moi, je n'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, c'est un véritable confinement, puisque... Ils ne peuvent pas quitter le fort. Pour le quitter, il faut un mot de passe. Et il y a un malheureux qui, un jour, sort parce qu'on croit que c'est l'ennemi qui arrive. Or, ce n'est qu'un cheval égaré.
Oui.
Il sort récupérer le cheval sans rien dire à personne.
Oui, oui.
Et il ne connaît pas le mot de passe.
On parlera de 3-4 événements qui ponctuent effectivement cette... une vie faite d'habitude.
Oui.
Le cadre, je trouvais que... Je n'ai pas vu le film et je le regrette. Parce que j'ai beaucoup aimé les déserts. Mais ce cadre doit être très beau, en même temps impressionnant, oppressant pour certains. C'est suivant finalement la nature de la personne. Mais il y a une forme... C'est épuré, c'est pur, c'est...
Oui, je pense que ce qui est pur pour moi, c'est l'environnement, cette espèce de désert de cailloux blancs, où il n'y a rien, où il ne se passe rien. Alors que le fort, il est souvent donné comme lugubre, de sombres murailles, mal entretenues. Il y a de l'eau qui, de temps en temps, Drogo ne peut pas dormir parce qu'il entend comme des gouttes d'eau qui tombent. On a l'impression que certains murs, enfin, suintent un peu.
Il enferme des gens qui sont prêts à guerroyer aussi. Hein.
Oui.
C'est pas quand même un lieu de plaisir, de paisible ou de recueillement même, a priori.
Pas du tout, oui, effectivement. Finalement, il y a pas mal de sentinelles qui arpentent les hauteurs du fort pour surveiller cet hypothétique ennemi. Et on est toujours, en quelque sorte, dans un monde de combat, effectivement.
Alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu des personnages, parce qu'il y a une distribution de rôles. Le fait que ça ait donné lieu à un film, ça se comprend tout à fait. Il y a d'abord une hiérarchie.
Oui. Alors, il y a effectivement le commandant du fort.
Le colonel, qu'on ne voit pas beaucoup.
Qu'on ne voit pas beaucoup,
oui.
Oui, qui est à l'écart de ses hommes. Il y a, bon, après, on rencontre un peu plus le capitaine Ortiz.
Oui.
Qui met en garde Drogo dès le début.
Et Tronc aussi.
Voilà.
Ah oui, alors Ortiz qui met en garde Drogo.
Oui.
Alors, justement, là, vous avez noté un passage de lecture.
Oui.
Vous êtes prêts ?
Je vous laisse le lire, Monique.
Ah, d'accord. Bon, alors, voyons. Alors, Ortiz, qui a une certaine amitié, finalement.
Voilà, il semble prévenant, un peu paternel avec le jeune Drogo, parce que lui aussi devait rester 4 mois, et il est là depuis une quinzaine d'années. Et il va le mettre en garde au bout de 4 mois, et 4 ans plus tard.
D'accord, oui. Partez, dit-il donc à Drogo. Partez pendant qu'il en est encore temps. Retournez à la ville. Contentez-vous de la vie de garnison. Après tout, vous n'avez pas l'air d'être homme à mépriser les plaisirs de la vie. Vous aurez certainement de l'avancement, et plus vite qu'ici. Et puis, on n'est pas tous nés pour faire des héros. Drogo se taisait. Vous avez déjà laissé passer 4 ans, disait Ortiz. Cela comptera dans vos notes, je vous le concède, mais pensez combien plus utile eût été pour vous de rester en ville. Vous êtes resté ici, coupé du monde extérieur, personne ne se souvient plus de vous. Retournez là-bas pendant qu'il en est encore temps.
Voilà, et effectivement, la fuite du temps scande le roman.
Oui.
En permanence. Et moi, j'ai trouvé qu'une des grandes forces et une des grandes habiletés de Dino Buzzati, dans ce temps qui est entièrement vide, il ne se passe rien, eh bien, on se laisse happer par ce vide. Et ensuite, donc, le temps prend son temps. Au début, les journées s'écoulent lentement. Puis le temps s'accélère, 22 mois sont passés, puis d'un seul coup, 4 ans, et puis d'un seul coup, Drogo a 40 ans, puis 54 ans.
À un moment donné, il dit ce n'était pas la première neige, mais la troisième ou la quatrième, et elle était là pour indiquer que plusieurs jours avaient passé. Il me semble que c'était hier que je suis arrivée au fort, disait Drogo, ainsi de suite.
Oui, toutes les journées sont identiques.
Oui.
Vous parliez de la force des habitudes tout à l'heure, Monique. Effectivement, les personnages, et notamment Drogo, est englué dans cette force des habitudes. On a l'impression même que son être se dilue.
Oui, absolument. Alors justement, vous parlez d'habitude. Oui. C'est à vous de lire maintenant à la page 74, je crois, où on énumère toutes les habitudes auxquelles il va se soumettre.
Oui, et alors moi, je vous propose de partager la lecture paragraphe par paragraphe.
Je vous suis.
Parce qu'effectivement, c'est toute la force du roman. Je commence alors.
Allez-y.
Les trompettes auraient pu sonner. On aurait pu entendre des chants guerriers. D'inquiétants messages auraient pu venir du nord. S'il n'y avait eu que cela, Drogo serait parti quand même. Mais il y avait déjà en lui la torpeur des habitudes, la vanité militaire, l'amour domestique pour les murs quotidiens. Au rythme monotone du service, 4 mois avaient suffi pour l'engluer.
Le tour de garde, qui pour la première fois lui paraissait une corvée insupportable, était devenu une habitude. Peu à peu, il avait appris à bien connaître les règlements, les façons de s'exprimer, les manies des supérieurs, la topographie des redoutes, l'emplacement des sentinelles, les coins abrités du vent, le langage des trompettes. Il retirait un plaisir particulier de la maîtrise du service, appréciant l'estime croissante que lui portaient soldats et sous-officiers. Jusqu'à Tronc, qui s'était aperçu combien Drogo était sérieux et scrupuleux, et qui s'était pris presque d'affection pour lui.
Habitude aussi étaient devenus les collègues. Maintenant, il les connaissait si bien que même leur plus subtil sous-entendu ne le prenait pas en défaut. Et le soir, ils s'attardaient longuement ensemble à bavarder des événements de la ville qui prenaient avec la distance une importance démesurée. Habitude, la table confortable et bonne, l'accueillante cheminée du mess des officiers où il y avait du feu jour et nuit. Et l'empressement de l'ordonnance, un bon diable nommé Geronimo, qui avait peu à peu appris à connaître ses désirs particuliers.
Habitude, les promenades faites de temps en temps avec Morel au village le plus proche, 2 longues heures à cheval à travers une vallée étroite qu'il connaissait maintenant par cœur, une auberge où l'on voyait enfin quelques visages nouveaux, où l'on préparait des repas somptueux et où l'on entendait des rires frais de femmes que l'on pouvait courtiser.
Habitude, les courses effrénées à cheval dans la plaine derrière le fort, les compétitions avec les camarades, les après-midi de repos et les patientes parties d'échecs le soir, qui se terminaient bruyamment souvent par la victoire de Drogo. Mais le capitaine Ortiz lui avait dit « Il en est toujours ainsi au début, les nouveaux arrivés gagnent toujours. C'est la même chose pour tout le monde, on s'imagine que l'on est vraiment fort, mais ce n'est qu'une question de nouveauté. » Les autres aussi finissent par apprendre notre système. Et un beau jour, on n'arrive plus à rien.
Habitude pour Drogo, la chambre, les calmes lectures nocturnes, la lézarde qu'il y avait dans le plafond au-dessus de son lit et qui ressemblait à une tête de turc, les clapotis de la citerne devenus familiers avec les couvertures si peu hospitalières. Pardon, devenu familier avec le temps. Le creux fait par son corps dans le matelas, les couvertures si peu hospitalières les premiers jours et à présent dociles, serviables. Le mouvement exécuté maintenant instinctivement de la bonne longueur pour atteindre la lampe à pétrole ou pour poser le livre sur la table de nuit. Il savait maintenant comment il devait se placer pour se raser le matin devant la glace afin que la lumière lui éclairât le visage dans un bon angle, comment verser l'eau du broc dans la cuvette sans en répandre par terre, comment faire céder la serrure rebelle d'un tiroir en pesant un peu sur la clé.
Habitude, les craquements de la porte pendant les périodes pluvieuses, le point que frappait d'ordinaire le rayon de la lune quand il entrait par la fenêtre et son long, lent déplacement avec la fuite des heures. Le va-et-vient dans la chambre, au-dessous de la sienne, quand toutes les nuits, à 1h30 exactement, la vieille blessure à la jambe droite du lieutenant-colonel Nicolosi se réveillait mystérieusement, interrompant le sommeil de celui-ci. Toutes ces choses étaient désormais devenues siennes et l'équité lui eût fait de la peine.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette somme d'habitudes auxquelles il a pris goût ?
Eh bien, je crois que c'est ce qui va le retenir au fort, Monique. Et ces habitudes, pour moi, symbolisent... aussi un peu le désert des Tartares que nous pouvons avoir en chacun de nous.
Alors, est-ce que c'est une forme d'enlisement ?
Pour moi, oui. Les habitudes sont faites, en quelque sorte, pour être un socle qui doit être dépassé et nous permettre de faire des choses, en quelque sorte, supérieures. D'aller vers quelque chose qui peut être essentiel dans la vie.
Or, pour Drogo... Rompre les habitudes, justement.
Voilà. Or, pour Drogo, c'est un emprisonnement. Au contraire, il n'a plus la force de les rompre,
oui,
ses habitudes.
Même il s'y soumet avec plaisir, quasiment, oui. on le voit.
Oui. Et c'est pour ça qu'il va rester au fort jusqu'à sa mort, en quelque sorte.
Oui, alors qu'il attendait la gloire. Alors, la question qu'on peut se poser, mais peut-être que nous allons faire une pause musicale. Alors, parlons de la chanson de Jacques Brel, et toutes les deux, on y a pensé vraiment avec... il s'agit de Zangra.
Oui, je m'appelle Zangra et je suis capitaine au fort, etc.
Il ne peut qu'avoir lu le roman de Buzzati pour avoir écrit ça.
Oui, oui. C'est vraiment un raccourci du roman.
Absolument. On l'écoute.
Je m'appelle Zangra et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir les filles en troupeau. Mais elle rêve d'amour, et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangra et déjà capitaine au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la jeune Consuelo, mais elle parle d'amour et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangra, maintenant commandant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Alors je vais au bourg boire avec Don Pedro. Il boit à mes amours et moi à ses chevaux. « Je m'appelle Zangara, je suis vieux colonel au fort de Bellanzio qui domine la plaine d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la veuve de Pedro. Je parle enfin d'amour, mais elle de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, hier trop vieux général, j'ai quitté Bellanzio qui domine la plaine, et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Et Anna Servergne, venue nous parler d'un très beau roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Anne, on vient d'entendre la chanson de Brel, Je m'appelle Zangara, c'est un raccourci formidable.
Ah oui, véritablement, il dit tout.
Voilà, il dit tout.
Et, en quelques strophes.
Et alors, on pourrait parler, on reviendra à certains personnages, à certains événements de l'histoire, parce que, c'est vrai que c'est très répétitif, il y a les exercices des sentinelles, le clairon, etc., tout est vraiment bien cadré, mais de temps en temps, il y a quelques événements qui prennent de l'ampleur. Mais là, il attend, et ça vous a frappé.
Oui, parce que le temps de l'attente est pour moi un temps vide. Et effectivement, quand je dis qu'on a tous un désert des Tartares en soi, c'est quand on se met dans le temps de l'attente et qu'on dit vivement demain, vivement les vacances, vivement la retraite, et qu'on oublie alors de vivre le temps présent, le seul temps que nous pouvons vivre.
Et de faire de projets alors.
On peut aussi, oui, effectivement, faire des projets. Oui. On ne peut pas être prisonnier non plus du présent. Il faut savoir le vivre. Mais en même temps, Drogo, il attend quelque chose qui ne dépend pas de lui. Il attend un événement qui peut-être n'arrivera jamais, un hypothétique destin.
Oui.
Une hypothétique gloire en plus.
Oui,
il vit dans l'illusion totale et il va perdre sa vie.
Et en plus, ce que je trouve un peu gênant, c'est qu'en fait, il attend d'une bataille, d'une guerre, il attend cette gloire. C'est un peu dommage quand même. Moi, je rejoins un peu Dino Buzzati. On sait quand même qu'il a vécu, qu'il était reporter de guerre et qu'il a souffert de cette guerre et qu'il avait, justement, il était contre. Et il l'a écrit en 40, hein, cependant. Ce n'était pas au plus fort encore de la guerre. Enfin, je ne pense pas. En Italie, je ne sais pas. Mais effectivement... je trouve qu'il y a un côté très macho d'attendre. Je pense que ce n'est pas des seuls hommes, mais d'attendre quelque chose d'aussi violent, d'attendre la gloire. La gloire à quel prix ? Ça veut dire de tuer des hommes, par exemple.
Exactement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, ils sont dans cette attente, puisque vous avez parlé des différents événements qui parfois mettent le fort en émoi, et en même temps, ils le redoutent. Parfois, ils sont très inquiets quand ils croient que c'est vraiment l'ennemi qui arrive.
Oui, il y a l'apparition d'une troupe à un moment donné, effectivement.
Oui. Alors là, ils sont en émoi, ils sont à la fois ravis et anxieux, et ce sont simplement, alors une fois, ce sont des gens qui établissent une frontière.
Mais là, oui. C'est vrai, mais ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il y en a qui sont très excités.
Oui.
Et puis celui qui doit prendre des décisions, le commandant, finalement, il devient léthargique.
Oui.
Voilà. Il est décontenancé, il attend depuis tant de temps que finalement, non, il n'y a pas de réaction.
Voilà, maintenant que l'événement est peut-être là, effectivement, moi aussi, j'ai été frappée par cet enchaînement. Et en même temps aussi, ce qui m'a frappée, c'est quand il y a les ouvriers qui construisent la route, qui se déplacent dans le très lointain. Et pendant 15 ans, ils vont attendre l'hypothétique ennemi avant de découvrir que on construit une route, tout simplement, par laquelle peut-être personne ne passera jamais.
Oui, 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 non, et c'est un fait. Oui, alors évidemment, il y a aussi ce cheval noir qui inquiète, oui. Alors qu'on sait que de toute façon, les Tartares n'ont que des chevaux blancs.
Oui.
Mais je crois, alors, je ne sais pas si dans le film, ils n'ont pas mis un cheval blanc, justement.
Alors, je l'ai vu il y a très très longtemps, Monique, le film, et donc je ne peux pas répondre.
Moi, je ne crois pas l'avoir vu, mais c'est un extrait, je n'en sais rien. En fait, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette attente, lui attend.
Oui.
Mais il y a un personnage que j'ai trouvé très très intéressant, c'est Agustina.
Oui.
Parce que Agustina a comme ami quelqu'un qui est totalement différent de lui et qui va rejoindre la ville. Et qui va vouloir entraîner Agustina en disant « Mais écoute, on va retrouver la vie, les sorties, les femmes. » Et Agustina dit « Ah, très bien, très bien. » Alors, j'ai eu le sentiment que la démarche d'Agustina était totalement différente de celle de Drogo.
Oui. Alors, Agustina, on a l'impression que c'est un poète perdu un petit peu parmi ses officiers. Alors, est-ce que c'est le hasard de la vie? Est-ce que c'est sa place dans une fratrie qui a fait qu'il a fait cette école d'officier? Parce qu'il est effectivement tout à fait différent. On sent que lui est fragile, qu'il est profondément humain. Et je pense aussi qu'il ne repart pas en ville. Je me demande s'il ne sait pas qu'il est très malade.
Il est malade, vous avez raison. Et je pense qu'il sait qu'il va mourir.
Oui.
Et pour moi, je vois le fait de rester comme une démarche spirituelle, justement.
Oui, oui, c'est le seul, effectivement, qui semble être en quête de quelque chose de différent, qui n'est pas en quête de gloire, réellement.
Oui, c'est vrai.
Mais peut-être de son être profond, ou en quête de Dieu, ou en quête... Il est tout est différent des autres dans sa tenue vestimentaire, dans son physique, dans ses paroles. On ne le comprend pas trop.
Oui, oui, oui. Alors, à un moment donné, j'ai lu une phrase qui m'a intéressée. Il ne s'était pas adapté à... On parle de ses officiers qui sont restés. Il ne s'était pas adapté à l'existence commune, aux joies de tout le monde, au destin moyen. Alors là, ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase?
Alors, c'est au pluriel?
Alors, c'était à la page 60.
À la page
peut-être
60.
Qu'il faudrait le remettre dans... c'est au pluriel.
Oui.
C'est au pluriel.
Alors...
C'est du désert du Nord que devait leur venir leur chance l'aventure, l'heure miraculeuse qui sonne une fois au moins pour chacun, l'heure miraculeuse, il faut savoir laquelle.
Oui.
À cause de cette vague éventualité qui, avec le temps, semblait se faire toujours plus incertaine. Des hommes faits consumer ici la meilleure part de leur vie. Ils ne s'étaient pas adaptés à l'existence commune, aux joies de tout le monde, au destin moyen. Côte à côte, ils vivaient avec la même espérance, sans jamais parler de celle-ci, parce qu'ils n'en étaient pas conscients, ou tout simplement parce qu'ils étaient des soldats avec la jalouse pudeur de leur âme.
Oui, alors moi quand même, ce qui m'étonne, c'est que ce sont des soldats, mais ils sont tous en attente et confinés, comme vous l'avez dit au départ, dans ce fort, et que leur vie n'a aucun sens. C'est ce que ressent Drogo dès le début.
Oui.
Il le ressent profondément, il trouve que c'est absurde. C'est pour ça qu'il veut repartir, alors qu'il vient à peine d'arriver. Dans la même journée, il veut repartir.
Oui.
Et ils se laissent tous happer, englués, par, en quelque sorte, cette absurdité, ce non-sens de leur vie. Leur vie n'a aucune réalité que celle que leur donne leur métier de soldat, mais ils ne sont pas au combat, ils sont en attente.
Oui, oui, oui. Oui, alors sauf Agustina qui va mourir, on ne va peut-être pas en parler maintenant, il meurt mais d'épuisement finalement, dans le froid, parce qu'on n'a pas parlé du temps, de l'atmosphère, c'est glacial, tout est dans le fond glacial, pas tout paraît glacial. Donc lui, c'est vrai que Dino Buzzati met l'éclairage à fond sur Drogo, moins sur Agustina, mais il en parle quand même.
Oui, il y a presque tout un chapitre, ou pas tout à fait, mais enfin de nombreuses pages, justement.
De même qu'il parle de l'ancien aussi, celui qui était l'ancien maître tailleur.
Oui.
Hein, qui lui aussi dit, alors il met en garde, et c'est à la page 57, si vous voulez bien le lire, il met en garde Drogo, qui vient prendre son uniforme.
Oui. Vous l'avez entendu, lui demanda-t-il avec un accent bizarre, faisant d'un geste allusion au tailleur qui venait de sortir. Vous l'avez entendu ? Savez-vous, mon lieutenant, depuis combien d'années il est au fort ? Non, je ne le sais pas. 15 ans, mon lieutenant. 15 maudites années. Et il continue de répéter l'histoire habituelle. Je ne suis ici que provisoirement. D'un jour à l'autre, je m'attends à... À la table des apprentis, quelqu'un pouffa. Ce devait être là leur habituel sujet de moquerie. Le petit vieux n'y fit même pas attention. Et au lieu de ça, il ne s'en ira jamais, dit-il. Lui, le colonel commandant le régiment, et beaucoup d'autres resteront ici, jusqu'à ce qu'ils crèvent. C'est une sorte de maladie. Faites attention, mon lieutenant. Vous qui êtes nouveau, vous qui venez à peine d'arriver, faites attention pendant qu'il est encore temps. Faire attention à quoi ? À vous en aller dès que vous le pourrez. Attention de ne pas attraper leur folie. Et il l'attrapera.
Il l'attrapera. Alors, nous allons écouter un extrait d'une musique de... C'est Laurence d'Arabie. Alors, peut-être que Christophe saura me dire quel est l'auteur. C'est Jarre, mais le père. Maurice Jarre, voilà, je cherchais. Un très beau film, très très beau film, avec une très belle musique de Maurice Jarre qui évoque le désert. Pour moi, c'est ainsi que je l'entends.
Thank you.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Et Anne Lasserverne et Dino Buzzati. Et oui, nous parlons de Dino Buzzati et surtout de son livre Le désert des Tartares, livre remarquable. Et grâce à Anne Lasserverne, nous le parcourons et je vous encourage à le lire. Il est en poche, tout simplement. Et vraiment, c'est un très beau livre à faire lire également aux adolescents, aux parents, à tout le monde. Oui, Anne Lasserverne, on parle donc de Drogo, ce jeune homme qui a fait une école militaire, qui a réussi. Apparemment, le père n'est pas là, la mère n'est probablement pas fortunée. Il est arrivé quand même à ce qu'il voulait, c'est-à-dire être officier, et il obtient son premier poste. Or, ce poste est lointain. Et ce poste, l'oblige à quitter la ville. Et finalement, on voit plein de revirements en cet homme, et des revirements très fréquents, dans le fond.
Oui, et c'est en ce sens, peut-être, moi je trouve que Drogo est un personnage à la fois intemporel et universel.
Absolument.
Voilà. Et ce que vous dites, c'est vrai que finalement, ce voyage vers le fort Bastiani aurait déjà pu être une sorte de voyage initiatique. Mmh. Les 4 mois au fort auraient pu être aussi poursuivre ce voyage initiatique et déboucher sur quelque chose. Et on a l'impression qu'à partir du moment où Drogo obtient ce pour quoi il a lutté pendant 24 ans, je crois qu'il a 24 ans quand il devient officier, ben, sa vie se termine. Il a eu ça, il s'est battu pour ça, maintenant que la vie lui donne ce qu'il attend.
Oui.
Et la vie se moque bien de ce qu'attend Drogo. Hein.
Absolument, absolument. Et oui, c'est vrai que ça nous fait réfléchir,
oui.
Finalement. Hein, n'attendons pas les lendemains comme ça.
Oui, la vie, en quelque
elle
sorte...
Elle passe vite.
Ah, oui.
Oui, c'est vrai que ça aussi, vous voyez, merci Anne. on se dit, oui, le temps passe vite. On dit, ah, vivement l'été. Mais non, profitons du printemps.
Oui, exactement.
Voilà.
Oui,
oui. Et alors, est-ce que c'est très amusant parce que je me suis dit, il y a cette formule carpe diem.
Oui.
Alors, carpe diem, c'est vrai que c'est très jouissif. Hein, oui. On dit oui, ce sont des hédonistes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut ?
Je pense qu'il faut quand même vivre le présent. Il peut être vécu dans toute sa richesse. Je veux dire, mais souvent, nous oublions le quotidien parce qu'il est tellement banal, habituel, que nous ne donnons pas de sens à ce quotidien.
Oui, c'est vrai.
Et là, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, donner du sens à son quotidien, donc à sa vie, en quelque sorte, ce que ne fera jamais Drogo.
Et alors, ce qui m'a étonnée, c'est que Drogo était confiné.
Oui.
Or, beaucoup de gens confinés ces derniers temps ont découvert, par exemple, les bourdons, les fleurs qui dans leur jardin ou dans un jardin public. Le fait du confinement a fait qu'on a fait beaucoup plus attention aux choses.
Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, Monique, peut-être parce qu'ils sont enfermés dans ce fort lugubre. Finalement, le désert des Tartares, il est pratiquement pas décrit. On ne sait même pas s'ils le voient souvent les uns ou les autres.
Et d'ailleurs, vous avez raison, il a du mal à le voir. Au début, on lui refuse même la possibilité de le voir.
Oui. Donc, confiné, il pourrait avoir une sorte de quête spirituelle, chercher autre chose que le bourdon, en quelque sorte, découvrir autre chose, découvrir l'amitié, découvrir ce que l'on peut avoir en soi, avoir une évolution peut-être psychologique, spirituelle. Or, Drogo, il reste à 24 ans.
Alors, est-ce que cette quête spirituelle, c'est pas le désert, justement, cette pureté infinie ?
Ah oui, Monique, effectivement, ça pourrait être ce désert, mais en quelque sorte, ils restent à côté, eux.
Oui.
Alors que la quête spirituelle pourrait leur être ouverte, et ils ne vont pas, puisqu'ils attendent toujours ce fameux événement qui donnera un sens à leur vie.
Alors, il y a quand même plusieurs ironies du sort. Vous en avez dénoté 2, en tout cas. Lesquelles ?
Alors, l'ironie du sort, l'ironie. Ah oui, celle quand Drogo a enfin une permission au bout de 4 ans, une permission de 2 mois, et que suivant les conseils du colonel Ortiz, du capitaine Ortiz, il se décide quand même à aller voir le général pour demander une mutation. Et le général lui répond que c'est absolument impossible puisqu'on réduit les effectifs du fort et qu'il y a déjà une vingtaine de demandes de mutation. Et alors là, Drogo se rend compte qu'aucun de ses camarades ne l'a informé de cette situation. Première ironie du sort.
Oui. Et alors, à un moment donné, il dit, sa confiance diminuée. Il est difficile de croire à quelque chose quand on est seul et que l'on ne peut en parler avec personne. Alors ça déjà, c'est assez étonnant. Il est entouré d'hommes.
Oui, il est entouré d'hommes, mais finalement, il ne se parle pas vraiment.
Juste à cette époque, effectivement, Drogo s'aperçut à quel point les hommes restent toujours séparés l'un de l'autre, malgré l'affection qu'ils peuvent se porter. Il s'aperçut que si quelqu'un souffre, sa douleur lui appartient en propre. Nul ne peut l'en décharger si légèrement que ce soit. Il s'aperçut que si quelqu'un souffre, autrui ne souffre pas pour cela, même si son amour est grand, et c'est cela qui fait la solitude de la vie.
Oui, et alors c'est ça qui m'a frappée, c'est que je trouve qu'il y a vraiment trois thèmes essentiels, tels que la fuite du temps, la force des habitudes, et cette solitude qu'il ressent à peine arrivé au fort, et qu'il va ressentir tout au long de ses 30 années, et même quand il revient en ville, il est solitaire, auprès de sa mère, il est solitaire auprès de ses amis et même de Maria. Et sa mort sera aussi solitaire.
Oui. Alors, c'est étrange parce que dans le fond, il est né solitaire.
Oui. Il ne partage rien.
Non, non, non.
Si on réfléchit bien, on ne sait pas qui est réellement Drogo.
Ah oui, il est tellement complexe, tellement complexe. On aimerait bien dire, ce serait un peu facile et ennuyeux finalement, il est comme ceci, comme cela. Non, il est tout à la fois, et quand vous avez dit tout à l'heure, et c'était vraiment très juste, c'est à la fois universel, intemporel, c'est l'homme, dans toute son ambiguïté finalement.
Oui.
Et il y a, et donc il va finir par mourir.
Oui. Il va finir par mourir, et ce qui m'a frappé, Monique, c'est que c'est là son véritable et unique combat.
Oui.
C'est la seule fois où il va regarder la vie en face, ou plutôt la mort en face. Et là, vraiment, il est face à lui-même, et il montre une force et un courage extraordinaires, parce qu'il est lui-même, cette fois-ci.
Alors, est-ce que... ce pourquoi il était fait, est-ce que c'était un combat hypothétique ou c'était justement se rapprocher de la mort?
Alors je ne sais pas si on peut dire comme Montaigne que la mort est le bout de la vie ou le but de la vie, ou lui effectivement ce choix déjà d'être officier peut poser la question.
Oui, est-ce qu'il ne s'est pas préparé? On peut se poser la question.
On peut se poser la question, en même temps, il est furieux qu'on l'évacue au moment où, deuxième ironie du sort, l'ennemi arrive au moment où il a 54 ans, qu'il est gravement malade, qu'il ne peut plus quitter son lit, et que donc il est évacué. Et il va mourir seul dans une chambre d'auberge.
Oui. Alors, vous allez me dire quelque chose, parce que je crois que je n'ai pas dû le lire tout au bout. Drogo, l'obscurité a empli la chambre, ce n'est qu'à grand-peine que l'on peut distinguer la blancheur du lit et tout le reste est noir. Sous peu, la lune devrait se lever. Drogo aura-t-il le temps de la voir ou faudra-t-il qu'il s'en aille avant? La porte de la chambre a un frémissement et craque légèrement. Peut-être est-ce un courant d'air, un simple coup de vent, comme il y en a par ces inquiètes nuits de printemps. Mais peut-être aussi est-ce elle qui est entrée à pas silencieux et qui maintenant s'approche du fauteuil de Drogo. Faisant un effort, Giovanni redresse un peu le buste, arrange d'une main le col de son uniforme, jette encore un regard par la fenêtre, un très bref coup d'œil pour voir une dernière fois les étoiles, puis dans l'obscurité, bien que personne ne le voie, il sourit. Il sourit.
Oui, là, il mène son véritable combat, Drogo, et... oui, c'est quand même étonnant. Il réussit en quelque sorte sa mort... après n'avoir pas réussi sa vie.
Oui.
Après être passé à côté de sa vie.
Mais est-ce qu'il ne l'a pas apprivoisé, sa mort, durant toutes ces années?
C'est possible.
Voilà.
C'est possible que, finalement, son vrai combat, c'est celui qu'il a mené.
Absolument. Ouais, je me demande.
Oui, c'est peut-être celui-là, Monique.
On attend la réponse de nos auditeurs. Oui. Un grand merci, Anna Cervaigne. Alors voilà, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Beaucoup d'entre vous l'ont lu certainement, mais le relire, ça apporte énormément. Merci encore.
Au revoir, Monique.